Martha Jane Connery, surnommée Calamity Jane, est une légende vivante de la conquête de l'Ouest. Éprise de la même liberté que celle accordée aux hommes, on l'appelle aussi la gâchette du Far West, crachant et jurant comme un homme. Elle a déjà terrassé bon nombre de mécréants. Elle a tour à tour été éclaireuse, convoyeuse, conductrice de diligence, infirmière, cuisinière, joueuse de poker. Cependant, bien qu'elle ait fait le tour des États-Unis, Calamity Jane est rongée par la pauvreté et la solitude. Son goût pour l'alcool l'a fait tomber dans la décrépitude. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une autre facette de sa personnalité, celle d'une mère sensible et aimante, puisque le 8 mai 1941, une certaine Jane McCormick déclare être la fille de Calamity Jane et tenir en sa possession les lettres que sa mère lui a écrites durant 25 ans. Le monde découvre alors une Calamity Jane remplie de profonde solitude et à jamais rongée par le remords d'avoir abandonné son enfant parce qu'elle ne pouvait pas l'élever. En voici des extraits. Deadwood, territoire du Dakota, 25 septembre 1877. Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal et il se peut même que ça ne te parvienne jamais, mais j'aime penser à toi en train de le lire. Page après page, un jour dans les années à venir, après que je serai partie. J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seule, dans ma cabane, ce soir, et fatiguée. J'ai fait aujourd'hui 60 miles à cheval jusqu'à la poste et suis rentrée ce soir. C'est ton anniversaire et tu as 4 ans aujourd'hui. Vois-tu, ton papa Jim m'a promis qu'il m'enverrait toujours une lettre chaque année, le jour de ton anniversaire. Comme j'ai été heureuse d'avoir des nouvelles de lui, il m'a envoyé ta petite photo. Tu es mon portrait craché à ton âge. Et en regardant ta petite photo ce soir, je m'arrête pour t'embrasser et puis, à me souvenir, les larmes viennent et je demande à Dieu de me laisser un jour réparer mes torts d'une façon ou d'une autre envers ton père et envers toi. Ce matin, je suis allée sur la tombe de ton père à Ingleside. On parle de transférer son cercueil au cimetière de Mount Moriah à Deadwood. Une année et quelques semaines ont passé depuis qu'il a été tué, et on dirait un siècle. Sans vous deux, les années à venir m'apparaissent comme une piste solitaire. Demain, je vais descendre la Yellowstone Valley juste pour l'aventure et les sensations. Les O'Neill ont changé ton nom en Jean Irene, mais je t'appelle Janet pour Jane. Septembre 1877. Un autre jour est passé, chérie. En fait, 3 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que je t'ai écrit. Je suis assise à côté de mon feu de camp. Mon cheval, Satan, est attaché tout près. Tu devrais le voir quand la lumière du feu de camp joue sur son encolure luisante et sur les muscles de ses épaules satinées, avec ses pieds blancs et son losange blanc, entre les yeux. C'est un objet de toute beauté. Je suis si fière de lui. Ton père me l'a donné et j'ai aussi son compagnon de course, King, que j'utilise comme cheval de charge pour les longs trajets, mais je ne l'ai pas pris avec moi dans ce voyage. Je peux entendre les coyotes et les loups et la plainte saccadée des chiens indiens près de leur camp. Il y a des milliers de Sioux dans cette vallée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils pensent que je suis cinglée et ne me font jamais de mal. J'ai suivi une nouvelle piste aujourd'hui. Ce doit être la nouvelle route postale construite par les frayeurs de piste de Bozeman. J'espère les rattraper demain. Ils sont sur une mission dangereuse et cela ne fera pas de mal que je sois à proximité, juste au cas où ils auraient besoin de quelqu'un pour les aider à effaroucher les Sioux. Je crois que je suis le seul être humain dont ils aient peur. Sur cette page, tu trouveras une photo de ta grand-mère Canary, ma mère. Elle et ton grand-père sont venus à travers les plaines dans un chariot bâché quand je n'étais qu'une petite enfant. Nous avons vécu des années dans le Missouri. Coulson, juillet 1880. Cher Janet, me voilà à Coulson. Il s'est passé un an depuis que j'ai eu des nouvelles de ton papa Jim. Tu devrais voir Coulson. Aujourd'hui, j'ai rencontré ici un type de Deadwood qui connaissait mon meilleur ami de là-bas, Mr. Will Lull. J'ai été malade, une espèce de fièvre. Alors que j'occupais une chambre dans son hôtel, cet hôtel que Babyface Lull avait pris à la suite de Porter, un homme de la Nouvelle-Orléans, et Lull a été si bon pour moi. Je l'aime beaucoup. Il m'accueille toujours en disant « Comment va Jane, petite fille ? Fais bonne contenance, souviens-toi que tu es une bonne fille. » Lui et ton papa Jim sont les deux seuls hommes qui ont foi en moi. Bizarre, les hommes pour qui je peux avoir de la sympathie sont de l'Est. Il y a quelque temps, je suis allée à Cheyenne par la diligence et j'ai passé des moments palpitants. La diligence était conduite par Luke Warris. C'était un parent de Clark. Lewis et Clark, nous avons eu toute une conversation. Il était si intéressé par l'époque où ton père et moi étions allés à cheval d'Abilene à Deadwood Gulch. Nous avions passé toute la nuit au vieux poste de Virginia Dale. Je portais des pantalons d'homme et me faisais passer pour l'associé de Wild Bill, le Jack of Diamonds. Avant de partir, nous avons eu un concours de tir. Je les ai tous battus et pour sûr, ça m'a donné la grosse tête. Et puis le conducteur remplaçant a été tué et j'ai pris sa place. Tout le monde a blâmé les Indiens. Et c'est des hommes blancs qui étaient les auteurs de la tuerie et du meurtre et qui ont volé la poudre d'or aux garçons. Après la tuerie, ton père m'a mise au défi de conduire la diligence pour ce voyage. Je l'ai fait et je me suis trouvée dans un sacré pétrin, Janet. Les hors-la-loi étaient à mes trousses, le jour baissé, et je savais qu'il fallait faire quelque chose. J'ai donc sauté du siège du conducteur sur le cheval le plus proche, et puis sur mon cheval de selle qui était attaché sur le côté, et j'ai rejoint les hors-la-loi dans l'obscurité. Ton père arrivait derrière sans que je puisse le voir dans l'ombre, mais après avoir arrêté la voiture et ne pas y avoir trouvé de passagers, mais plutôt des monceaux de poudre d'or, ils ont perdu toute prudence. Ton père et moi, nous avons eu toute la bande. Il y en avait 8, et bien sûr, il a fallu les abattre, car ils ne voulaient pas céder. Ton père en a compté 3 qui avaient le bras droit transpercé. Il m'a dit « C'est ton travail, Jane, tu ne vises jamais pour tuer. » Les 5 autres, il a tiré pour les tuer. Il n'a jamais paru gêné de tuer, mais moi si. Je n'ai encore jamais tué personne, mais j'aimerais cogner sur la tête de certaines femmes de Deadwood. Il n'y a qu'une femme dans ce tas de vermine, et c'est Mrs. Bender. Deadwood est pleine de vermine, mais Mrs. Bender est différente. J'espère qu'un jour, tu pourras venir dans ce pays, tu sauras alors comment j'ai dû exister. Wilson, janvier 1882. Une autre année a passé. Rien d'important n'est arrivé sur quoi écrire. Le Northern Pacific Railroad est près d'être achevé. Une nouvelle ville a surgi, mais je t'en ai parlé dans l'album. Je vais te voir bientôt. Je peux à peine attendre. Je joue ces jours-ci afin de gagner assez d'argent pour en donner à ton papa Jim pour ton éducation. Je veux coincer les dirigeants du Northern Pacific quand ils viendront ici et il ne se passera qu'un petit moment avant qu'ils arrivent. J'ai l'intention de faire une partie avec eux et ensuite je serai en route pour la vieille Virginie afin d'être un moment avec toi. Mon ami Will Lull me manque car il me finançait. Il était toujours prêt à risquer sur moi. Un soir, il m'a prêté $5 et quand je l'ai vu le matin suivant, j'avais $1000. Mais ça s'en va, Janet. Ça part, aussi facilement que c'est venu. Je trouve toujours un pauvre sacré idiot dans un état pire que le mien et l'aide à faire une petite mise ou à acheter vêtements et nourriture à une famille d'enfants abandonnés de Dieu. Je ne pourrais pas manger une bouchée si je voyais un pauvre petit moutard affamé. Je pense toujours à toi, chérie, et voilà mon argent parti. Ensuite, je recommence tout. Je ne pense pas avoir le moindre mérite à agir comme je le fais. Il m'arrive parfois d'être un peu ivre, Janet, mais je ne fais de mal à personne. Il faut que je fasse quelque chose pour vous oublier, toi et ton père. Mais je ne suis pas une femme légère, Janet. Si j'en étais une, je ne serais ni infirmière, ni éclaireuse, ni conductrice de diligence. C'est comme ça qu'on m'appelle à Deadwood et Billings. Que ces villes aillent au diable, elles aussi. Dans l'une et l'autre, il ferait mieux de voir la poutre dans leur œil que la paille dans l'œil du voisin. Une caisse de livres vient d'arriver de la part de ton papa Jim. Pour sûr, il veut que j'apprenne quelque chose. Dans le nombre, il y a quelques romans. Naturellement, je suis juste assez toquée pour les attraper les premiers. J'aime vraiment le roman de M.G. Holmes et j'aime les lire comme un porc va à sa pâtée. Tu devrais excuser ta mère, Janet. Elle sait qu'elle est bizarre et mal léchée. Je vais aller te voir bientôt maintenant, mais il faut que j'entre dans une partie de poker et gagner $20,000 avant de pouvoir aller vers toi. Je m'occupe d'une fille et d'un garçon et je dois te dire que Jackie est partie pour l'Alaska. Ces deux-là sont plus âgés. La fille a 16 ans. Le garçon indien, 18. Je vais les emmener dans l'Est avec moi quand j'irai te voir, si je gagne la partie de poker avec la Northern Pacific. Le garçon veut entrer dans une école de médecine et la fille veut être actrice. Je leur donnerai leur chance à tous deux si je gagne. Et je gagnerai.
Excusez-moi.
Pourquoi ?
Où je pourrais trouver le maréchal Ferrand.
Hé, hey, McFly! Je croyais que c'était venu de plus foutre les pieds ici. Ben, t'es pas si Simus McFly. Sûr que tu lui ressembles. Surtout avec ce galurin à la noix. Tes parents avec ce coupe-poing. Ton nom c'est quoi, pied tendre?
Eastwood. Clint Eastwood.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi, le meuil?
Mais t'as vu que c'est l'avorton de la couvée.
Eh oh, les gars, visez-moi un coup ces jolies petites dents nacrées. Des ratiches aussi droites, j'en ai vu que c'est le marchand.
Jette un coup d'œil à ces mocassins, c'est fait en peau de quel animal, ça? Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus?
Nique, mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est un mot de patois peu rouge.
Barman, t'aurais pas vu par hasard ce sale voleur de maréchal Ferrand dans le coin, hein?
Non, monsieur Tannen, je l'ai pas vu.
Tannen? Vous êtes molosse, Tannen?
Molosse? Ce nom, je l'encaisse pas. Ça me rend enragé, t'entends? Personne m'appelle molosse. Encore moi, une espèce de mouche à merde déguisée en arbre de Noël.
Ha, ha, ha.
merde.
Sans date. Cher Janet, me voilà à Old Clark City, pas loin de l'endroit où tu es née. Il n'y a rien pour moi ici. Je dois m'occuper du bébé d'une amie. Elle me l'a laissé et n'est pas revenue le prendre. Je vais avoir une espèce de boulot. J'ai travaillé un moment dans le saloon de Russell. C'est Abbott qui m'a trouvé ce boulot. Ils veulent que je conduise de nouveau une diligence, car quand je travaillais chez Russell, les bonnes et vertueuses femmes du lieu ont voulu me chasser de la ville. Elles sont entrées dans le saloon, armées d'une cravache et d'une paire de cisailles pour me couper les cheveux et me coiffer à la ninon, comme les femmes légères de Paris sont tenues de l'être. Comme ça, elles restent à leur place avec leurs marques sur les oreilles. Eh bien, Janet, je leur ai réglé leur compte à ma façon et je n'ai pas quitté la ville coiffée à la ninon ou marquée par leur cravache. J'ai sauté du bar, au milieu d'elles, et avant qu'elles puissent dire « ouf », les voilà toutes à hurler. J'ai coupé les vieilles boucles noires d'une de ces garces, leur ai flanqué des coups de cravache sur la tête, et j'en aurais tué quelques-unes quand Abbott et le révérend Sipes sont entrés. La poussière est retombée et elles étaient toutes là, leurs scalpes encore sur le crâne, moins quelques poignées de cheveux, et n'ayant subi aucun dommage, sinon que je les avais traînées sur le plancher sale, que leur robe était à moitié déchirée et qu'un jupon ou deux manquait. C'était drôle de voir comme ces méchantes femmes convenables ont oublié l'usage du mouchoir et ont mouché leur nez morveux dans leur jupon. Je parie que leur jupon tiendrait droit tout seul si elles les jetaient dans un coin. Tu aurais dû voir les hommes, ils se sont tous ôtés du chemin, mais ils n'ont pas raté le spectacle. Un jour, je finirai ce travail. Vois-tu, je porte un pantalon d'homme et ça me permettait de me déplacer pendant que ces femelles en jupon appelaient à l'aide. Une des aristocrates, Nat Sims, porte encore des paniers. Tu aurais dû la voir quand j'ai sauté du bar. J'ai attrapé sa jupe à panier et ses trois jupons et lui ai relevé le tout sur la tête. Elle ne pouvait pas se défendre. Je l'ai donc eue juste là où je voulais la voir. Je lui ai arraché son pantalon long et l'ai laissé planter là, dans ses culottes de naissance, pour que les hommes s'en paient une tranche. Ensuite, j'ai pris le pantalon et ses rangées de dentelles au crochet et les noué au cou d'une autre femme qui était en train de me taper sur la tête. Quand j'ai vu sa langue pendre, je me suis attaquée à une autre. Si Abbott et Sipes ne s'étaient pas montrés juste à ce moment, je les aurais toutes mises dans leur tenue de naissance. Au début de la bagarre, un nommé Scott a entrepris de me donner un coup de main, mais comme il savait que nous devrions les assommer, je leur ai dit que s'ils me donnaient assez de temps et de place, je pourrais m'en tirer seule. Il était trop gentleman pour assommer des femmes, aussi est-il resté à me regarder prendre ma part de coups de griffes et de baffes. Certaines m'ont même mordu, mais j'étais si joliment furieuse que je n'en ai rien senti jusqu'au lendemain. Te voilà fixée sur Deadwood, et quand tu viendras par ici, si tu le fais jamais, Janet, et si on m'enterre à côté de ton père, et si certaines d'entre elles te toisent à cause de tes parents, tu fais transférer nos corps à Abilene, Kansas, ou ailleurs, si tu le désires. D'un autre côté, si on t'y traite décemment, souviens-toi, Janet, je veux que tu sois enterrée à côté de nous quand viendra pour toi le moment de franchir la grande ligne de partage. Thank you. sans date. Ma chérie, un jour, il se peut que tu viennes dans l'Ouest et tu entendras un tas de mensonges sur ta mère. Souviens-toi bien, quand tu entendras parler de Bellstar, que ce n'est pas une parente à moi. Souviens-t'en toujours. Je ne peux te dire pourquoi. Je t'avertis seulement que certains nous disent parente. Elle est vieille et méchante. Ton père, James Butler Hickok, m'a quitté après ta naissance et j'ai laissé les O'Neill t'adopter pour le contrarier. Il avait peur de sa concubine et m'a laissée seule et malade. Je veux te parler d'un jeune garçon que j'ai rencontré l'autre jour. Ces vieux piqueurs de vaches aiment le tourmenter. S'il vit assez longtemps pour être un vieil homme, si tu viens dans ce pays et si jamais tu trouves un juste devant Dieu à qui tu entends toujours dire une bonne parole en ma faveur, demande son nom à cet homme et je parie que ce sera Ben Greenwolf. Miles City, 20 janvier 1901. Ma chère Janet, me voilà à Miles City. C'est une vraie ville, aussi affairée qu'un marchand d'Erel. Tout le monde ici se mêle de ce qui le regarde. J'aime bien mieux cet endroit que Deadwood, mais je n'aime aucun endroit très longtemps. C'est bien simple, je suis toujours en mouvement. À présent, je suis la plupart du temps fauchée et mes yeux me donnent du souci. Tout ce qu'il me reste à faire désormais, Janet, c'est supporter de devenir aveugle. Et j'ai appris que tu as des chagrins toi aussi, que tu as perdu ta petite fille. C'était le pire qui pouvait t'arriver, chérie. Ce doit être la mort vivante. Penses-tu que Hawks y était pour quelque chose? Je crois vraiment que oui. Je me demande souvent si vous vous entendez, toi et Buckhart. Je parierai une jolie somme qu'avant longtemps, tu douteras de lui. Tu es exactement comme moi, Janet. Deadwood, avril 1902. Chère Janet, je pense que mon journal est près de s'achever. Je deviens aveugle. Je peux encore assez voir pour écrire ceci, mais je ne peux continuer à vivre une vieillesse avaricieuse. Tout espoir est mort pour toujours, Janet. Qu'ai-je jamais fait, sinon commettre bévue après bévue? Tout ce qui me reste, ce sont ces petites photos de toi et de ton père. Je ne peux pas continuer en étant aveugle, et le docteur m'a dit hier que dans 2 mois, je serai absolument aveugle. Oh, comme je voudrais avoir à revivre ma vie. Je hais la pauvreté et la saleté, et ici, je devrais y vivre mes derniers jours. Ne me plains pas, Janet. Pardonne toutes mes fautes et le mal que je t'ai fait.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, the starry crown, good Lord, show me.
C'était l'émission de la langue brune sur Calamity Jane à partir des lettres à sa fille, parue aux éditions 2000, tandis que je vous dis ça, Rivage, pardon, année 2007. Voilà, nous on se retrouve dans 15 jours, le 22 novembre, et je serai accompagnée de Mélanie Leblanc pour son intervention autour de la poésie. À bientôt.